Bonsoir, bienvenue à chacune et chacun. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans cette grande salle des Sertines sur Yverdon, au nom du comité Biblos, à cette soirée spéciale consacrée à une conférence dédicace sur l'histoire de la Bible d'Arby. Depuis 2015, Biblos s'active à proposer en Suisse romande une formation biblique ainsi que divers cours, voire conférences, afin d'équiper les membres de l'Église de Jésus-Christ pour mieux connaître Dieu, sa parole, et les équiper pour mieux servir. Dans cette tâche, je suis accompagné de Pierre-André, Claude-Henri André, Jean-Jacques Bourgeois, Christian Muller, Antoine Schwager, Jacques Torrance et moi-même, Nathanaël, et je remercie l'ensemble du comité pour son travail. Ce soir, nous accueillons comme conférencier Gilles Despins. Gilles Despins est marié à Ginny, qui est aussi là avec nous ce soir, et ils sont parents de deux fils adultes, dont un est marié. Rattaché à l'Assemblée chrétienne de Shawinigan, en Mauricie, Québec, et recommandé par elle pour son ministère, il poursuit depuis plusieurs années un ministère d'enseignant de la Bible au Québec, en Haïti, en Afrique et en Suisse romande. Possédant l'hébreu et le grec, les deux langues majeures de la Bible, il a eu l'occasion de faire un doctorat sur la traduction de la Bible par John Nelson Darby. De ce doctorat est né l'ouvrage qui est dédicacé aujourd'hui, « La Bible, Darby et son histoire ». Évidemment, je ne remercierai jamais assez le Seigneur pour le cadeau qu'il m'a fait avec mon épouse Claudine. Non seulement c'est une femme fantastique qui aime le Seigneur, mais elle m'a permis de faire, il y a quelques années, la connaissance de Gilles. Le Seigneur a conduit Gilles et diverses assemblées de Suisse romande à collaborer ensemble. Sa venue prolongée en Suisse romande durant 3 mois nous permet de vous proposer cette conférence. Comme croyants, attachés à la parole de Dieu, nous croyons à l'importance de celle-ci. Paul pouvait écrire à Timothée dans sa deuxième épître au chapitre 3 et au verset 16 et 17 « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » Ce verset nous apprend que toute écriture est inspirée par Dieu, soufflée par Dieu. Nous croyons donc à l'inspiration de la Bible. Et que fait cette écriture? Elle nous indique, elle nous montre un chemin. Elle nous convainc de ce qui est juste. Elle corrige les fautes et elle nous forme à une juste manière de vivre. L'écriture est le moyen par lequel Dieu prépare et équipe l'homme de Dieu pour faire toute action bonne. Alors, si la Bible est inspirée, nous croyons aussi à son inhérence, c'est-à-dire qu'elle est sans erreur dans les langues originales ou les manuscrits d'origine. Il est donc important que l'Église ait à sa disposition un texte traduit qui soit le plus proche possible des langues originales. Gilles nous conduira ainsi ce soir à découvrir ou à redécouvrir pourquoi Darby s'est lancé dans cette entreprise difficile et harassante de traduire le texte biblique en son entier, notamment en français. Alors, avant de débuter cette conférence, je vous propose de vous incliner dans la prière. Claude-Henri nous conduira dans la prière ainsi.
Nous voulons prier. Notre Dieu, notre Père, tu nous vois réunis ce soir pour parler d'un homme qui était doué intellectuellement, mais d'un homme que tu as utilisé spirituellement. Mais avant de nous arrêter sur cet homme que nous connaissons par ses écrits, nous voulons tout d'abord te dire merci. Te dire merci parce que cette parole que nous avons entre les mains, avec cette version d'Arby dont nous allons parler, cette parole, c'est toi qui nous l'a donnée. Nous venons de le rappeler. C'est toi qui l'a donné au travers des nombreux écrivains de la Bible. Et nous voulons te remercier parce que tu t'es ainsi révélé à nous. Sans cette parole, nous serions incapables de te connaître. Et nous voulons te remercier de ce que tu as pris soin ainsi de l'humanité, de ce que tu as voulu que l'humanité te connaisse, de ce que tu as voulu que l'humanité puisse te rencontrer et de ce que tu nous as révélé aussi ce plan de salut, ce plan de grâce que tu avais pour elle. Merci notre Dieu, notre Père, pour avoir gardé ta parole tout au long des âges, d'avoir gardé ces manuscrits que nous pouvons maintenant utiliser à notre profit et que beaucoup de peuples dans le monde peuvent utiliser pour eux-mêmes dans leur propre langue. Oui, nous te remercions d'avoir veillé ainsi sur ta parole et d'avoir permis qu'une nuée de témoins soit engagée pour l'écrire, pour la transmettre, pour la traduire et pour nous la remettre à disposition. Que nous puissions ainsi, jour après jour, creuser cette parole et mieux la comprendre pour mieux te connaître et mieux t'aimer. Et nous voulons te remettre encore cette soirée, te prier de bénir notre frère Gilles, que tu l'accompagnes aussi dans cette présentation, et nous le remettons aussi entre tes bonnes mains. Amen.
Bonsoir à tous. Merci Nata, merci Claude-Henri pour cette introduction. Vous savez ce qu'on dit souvent, il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Il n'y a que des petits hommes avec un grand Dieu. Et je crois que Darby était l'un de ceux-là. C'est un petit homme, très humble, mais qui a donné sa vie au Seigneur et qui a voulu servir le Seigneur et son peuple, qui avait un cœur de berger, qui aimait vraiment passionnément le peuple de Dieu. Et parce que cet homme s'est rendu ainsi disponible au Seigneur, bien, le Seigneur l'a utilisé de façon formidable, remarquable, de telle sorte que nous avons aujourd'hui, entre autres dans le monde francophone, l'une des traductions, sinon la traduction, à mon sens, la plus fidèle qui soit au texte original, mais dans notre langue, à nous, en français. Alors, c'est un plaisir pour moi de venir vous présenter les résultats de plusieurs années de recherche à travers plusieurs pays du monde, par beaucoup de contacts avec des gens qui venaient de plusieurs milieux, dans différents pays, dans différentes circonstances. Et puis, j'ai pu voir de façon extraordinaire, souvent, la main de Dieu pour m'amener à découvrir les bonnes personnes qui avaient les bonnes informations, les bons documents, etc. C'est impressionnant de voir, quand on se remet à Dieu, à quel point il dirige les choses de façon remarquable en son temps. Vous savez, il y a une histoire particulière derrière ce livre, et c'est un peu ce que j'aimerais vous présenter. Je m'appelle Gilles Despin, je viens de Shawinigan au Québec. Vous avez sûrement remarqué de toute façon à mon accent. Et puis, vous savez, quand j'étais un jeune croyant, on parle de en 1992 peut-être, 93, j'avais 22, 23 ans. Je me rappelle que j'avais reçu la biographie en anglais rédigée par un frère d'Allemagne, Max Weremchuk, qui s'appelait tout simplement John Nelson Darby. Et puis, vous savez, quand on m'avait remis cette biographie, j'étais impressionné par le désir de vouloir servir le Seigneur, en particulier avec la rédaction ou enfin la traduction des textes originaux hébreux, araméens et grecs de la Bible, afin de rendre cette Bible accessible dans le monde francophone, dans le monde anglophone et aussi dans le monde germanique, bien sûr. Merci, frère, pour ton service. Mais il n'y avait que 4 ou 5 pages sur tout ce travail à l'intérieur de ce livre, de cette biographie. Mais je me disais, il y a certainement plus. Mais à travers les années, j'ai découvert une ou deux ou trois biographies qui étaient quand même excellentes. Et puis, j'ai pu acquérir quelques informations, mais je dois vous dire au départ que le travail que Darby a fait m'a surtout amené à une passion pour moi-même, pour étudier les langues originales, étudier la Bible et me rapprocher de plus en plus de ce Dieu merveilleux que nous découvrons dans l'Écriture. Et c'est vrai que le Seigneur, à travers des circonstances particulières, m'a amené à découvrir, à grandir, à apprendre à travers des études qui se sont échelonnées quand même sur une très longue période. Et puis, en 2010, j'avais déjà, il faut dire, en 2009, eu l'occasion de travailler au Congo, en République démocratique du Congo. Et puis, en 2010, j'ai été invité par Pierre-Étienne Pfister à retourner là-bas pour le service du Seigneur dans l'enseignement de livres de la Bible, en particulier aux frères là-bas. Et puis, sans que je sache, de quelle façon Pierre-Étienne avait un peu organisé les choses, qui serait invité, qui ferait quoi. Eh bien, il avait réuni dans son projet, moi-même du Québec, avec un frère qui venait d'Afrique du Sud à cette époque, Frank Jabini, qui était en charge d'un programme de doctorat au South African Theological Seminary. Donc, c'est un séminaire théologique d'Afrique du Sud, très conservateur, fondé sur l'Écriture. Et puis, Frank Jabini travaillait dans ce séminaire. Il était en charge des études de doctorat là-bas. Et donc, nous nous sommes rencontrés au Congo, ensemble, en 2010. Il y a des gens qui disent qu'on se ressemble beaucoup. Il y a une version blanche et une version noire du même gars. Et moi et Frank, tout de suite, on a connecté ensemble. Et je me rappelle Pierre-Étienne qui me dit, « Moi, je savais qu'en vous mettant tous les deux, il arriverait quelque chose. » Tu te rappelles, frère, de m'avoir dit ça? Anne-Claude aussi qui m'avait dit ça, c'est vrai. Mais voilà, ça a fait qu'on s'est mis à discuter ensemble. Et puis, en parlant, moi et lui, on a découvert qu'on avait plusieurs champs d'intérêt communs. Et en particulier, la traduction de la Bible, et en particulier, le travail de Darby dans son travail de traduction, dans ce grand ministère. Et puis, à travers une semaine très courte tout de même, on a partagé nos champs d'études, on a partagé nos connaissances, un peu qu'est-ce qui nous passionnait dans le service du Seigneur. Et puis, Frank m'a fortement encouragé, en fait, à m'inscrire dans le programme de doctorat à cette Université d'Afrique du Sud. J'étais tout juste en train de finir une maîtrise en langue biblique avec une université américaine au Texas. Et donc, j'ai répondu à l'appel parce que je me disais, peut-être que ça vient du Seigneur après tout. Mais les coûts étaient très élevés, très élevés, et puis trop pour moi. Et puis, je devais aussi entamer un autre doctorat en même temps, un doctorat en herméneutique, en interprétation de la Bible. Et puis, j'ai placé devant le Seigneur avec mon épouse, je crois que c'était un mardi ou un mercredi soir, on a placé devant le Seigneur cette possibilité de faire ces deux formations, et puis en demandant au Seigneur, mais si tu pourvois dans l'un ou dans l'autre, on saura la direction. Et en moins de 24 heures, j'avais non seulement une réponse, mais tout le financement pour les deux doctorats. Tout le financement. Et c'est arrivé dans des circonstances vraiment incroyables. Le séminaire où Frank travaillait, ils me disent, on est en train d'ouvrir un programme francophone, mais on a besoin d'un livre d'introduction à la rédaction d'une thèse, un livre d'à peu près 350 pages. Et puis, il a été très mal traduit, malheureusement, il faut refaire le boulot. Et si tu fais le boulot pour nous comme traducteur, ils savaient que je travaillais dans le milieu des éditions de livres chrétiens, de Bible au Québec, eh bien, il me dit, si tu fais ça, on paie ton doctorat. Et puis, l'après-midi, je reçois un email de l'autre université au Texas avec laquelle j'avais fait ma maîtrise en langue biblique. Puis, ils me disent, écoute, si tu acceptes de devenir professeur pour nous à distance pour superviser des étudiants en Afrique en particulier, nous payons ton doctorat. OK. c'est clair. Merci, Seigneur. Et puis donc, c'est dans un contexte de projet de doctorat en philosophie, en réalité, c'est qu'un titre, mais en fait, c'est un doctorat dans les études du Nouveau Testament, mais puisque c'est une recherche, c'est ce qu'on appelle chez nous un PhD ou un doctorat en philosophie. Donc, le but, c'était de travailler sur l'histoire de la Bible Darby. Et l'idée fondamentale que nous avions au départ avec ce projet, c'était de démontrer l'importance de la Bible Darby pour l'étude biblique. Et en particulier, je dois dire, je pensais au monde francophone en Afrique parce que je trouvais qu'ils avaient peu de ressources. Ils ont de bonnes ressources, mais encore, ce n'est pas suffisant. Et j'aurais voulu vraiment mettre l'accent sur cet outil d'étude formidable qu'est la Bible Darby pour l'étude biblique. Ça, c'était l'idée fondamentale au départ. Et donc, de faire en sorte qu'elle puisse sortir des milieux qui sont habitués à l'utiliser et aller au-delà pour la faire connaître ailleurs aussi, parmi les frères et sœurs d'autres milieux. Et le but visé, il fallait reconstruire l'histoire, les objectifs et les principes du travail de traduction de Derby, ce qui n'était pas une mince tâche. Parce que ni Derby, ni ses collaborateurs, d'ailleurs que j'ignorais totalement l'existence à cette époque, mais personne n'avait rédigé jamais de livre ou du moins un traité quelconque sur le travail de traduction de Derby. D'ailleurs, tous les biographes qui en avaient déjà parlé auparavant, ils avaient cherché ici et là dans les différentes ressources qu'ils pouvaient trouver, puis ils avaient réussi en glanant à faire ressortir certains faits. Mais la majorité, enfin, vous prenez toutes les biographies qui existent de Derby, il y en a 5 principalement, toutes en anglais, eh bien, vous les prenez, vous les mettez ensemble, et puis ça donne moins de 20 pages. Surtout son travail de traduction. Et là-dessus, ben, les informations se répètent. Et ce sont les mêmes infos. On avait beaucoup besoin de comprendre quels principes il avait suivi, comment il avait fait son travail, avec qui, et c'était quoi le but visé. Est-ce qu'il avait atteint ses objectifs par la suite? Et tout cela pour démontrer à quel point c'est une traduction fidèle, solide. C'est important de connaître Derby et l'homme qui est derrière ce travail, mais rappelez-vous mon introduction, c'est un petit homme qui a travaillé avec un grand Dieu. Et ce grand Dieu a fait des choses extraordinaires à travers John Nelson Derby, qui est né le 18 novembre 1800 à Westminster. Et à l'âge de 12 ans déjà, Derby entre à l'école secondaire publique, telle qu'on l'appelait à cette époque là-bas, et il suit des cours de latin et de grec. Il a 12 ans. Et c'est un phénomène Derby dans les langues, c'est incroyable. Il fait déjà à 12 ans des compositions en anglais qui méritent l'attention des professeurs émérites qui lui portent une attention. À l'âge de 15 ans, il entre au Trinity College de Dublin ou Dublin. Et là, il va faire des études poussées, avancées. Il va même se spécialiser dans les études classiques. Il étudie presque tout. Un homme qui est très versé dans les langues et en particulier la connaissance générale. Derby a seulement 19 ans lorsqu'il reçoit son diplôme de bachelier en art, vous imaginez, en même temps que la médaille d'or dans le grec classique, dans les études classiques. Médaillé d'or, c'est une récompense qu'on attribuait à cette époque à ceux qui étaient au sommet de leur art et de leur connaissance à cette époque-là. C'était même, on disait, la plus haute récompense, ou du moins le plus grand honneur qu'on pouvait accorder dans le domaine des études classiques. Il est ensuite entré au barreau d'Irlande à l'âge de 22 ans. Il y a un Nouveau Testament grec qu'il s'est lui-même fabriqué. Je vais vous le présenter tout à l'heure en images. Et puis, à côté du passage, je pense que c'était 2 Timothée, quelque chose comme ça, il a laissé une note dans une marge de ce manuscrit grec dans lequel il dit qu'il s'est converti vers 1820, vers 1821. En fait, il semblait être assez hésitant sur le moment précis de sa conversion. Mais à l'âge de 24 ans, peut-être 3 ans à peu près après sa conversion, Derby va renoncer à sa carrière d'avocat qui est très prometteuse déjà, et il va être ordonné diacre dans l'Église anglicane. Il va se consacrer vraiment très fortement à ce ministère. Il va faire des visites de paroisse. C'est un berger dans le cœur Derby. On connaît moins cet aspect de lui, c'est vrai, parce qu'on a peut-être souligné trop d'aspects négatifs de l'homme dans d'autres décisions de sa vie, mais c'était un berger. Il avait à cœur les frères, et en particulier les frères pauvres dans l'Assemblée. Et puis voilà, il va exercer ce rôle pendant quelques années, et puis environ 2 ans plus tard, vous le savez probablement dans les biographies, on souligne cet accident de cheval qu'il a eu, où il a été projeté par son cheval contre une entrée, contre une porte. Et puis voilà, il a été blessé grièvement, plusieurs blessures qui l'ont cloué au lit. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait, vous croyez? Ben, il n'y avait pas d'iPad pour passer le temps et puis perdre son temps avec toutes sortes de machins électroniques. Alors, il a pris sa Bible, il s'est mis à l'étude de l'Écriture, et puis il a été touché, renversé de voir la profondeur de la parole de Dieu. Et à travers ces études qui vont commencer, non seulement avec tout le bagage qu'il avait déjà accumulé dans sa jeunesse, mais maintenant, dans son étude consacrée de la parole de Dieu, il va devenir un érudit extrêmement doué. Vous savez, il y a peu quand même d'ouvriers du Seigneur dans l'histoire de l'Église qui possédaient une connaissance aussi vaste. Peut-être qu'après Darby, il y a eu F.F. Bruce, qui a eu aussi une connaissance incroyable. Mais Darby était vraiment exceptionnel au point que William Kelly, qui est considéré comme un des grands érudits des assemblées de frères dans l'histoire, il a écrit ceci à son sujet. « Darby est un étudiant assidu, doté d'un esprit analytique et critique, non seulement envers les textes originaux hébreux et grecs, mais aussi envers les anciennes versions et tout document valable portant sur la révélation. Il est également versé dans l'histoire de l'Église. » Quelle déclaration au sujet de Darby! Mais c'est vrai que on a retrouvé, enfin, aujourd'hui, on a le catalogue de tous les livres qu'il y avait dans sa bibliothèque au moment où il est mort. C'est à Manchester, à l'université, dans les archives des frères qu'il y a là-bas. Et puis, on peut consulter ce catalogue et c'est formidable, tous les livres qu'il avait. On voit qu'il était versé vraiment dans toutes sortes de sujets, tant et aussi longtemps que c'était lié à l'histoire de l'Assemblée et aux Écritures. Alors, beaucoup d'ouvrages de manière générale dans sa bibliothèque particulière. On sait que Darby a démontré très tôt, enfin très tôt, c'est relatif, il avait peut-être dans le milieu de la trentaine, mais il a déjà démontré de l'intérêt vers cet âge envers la traduction biblique dès ce qu'on pourrait dire 1837. Il y a cette vieille note qui a été découverte, je ne me rappelle pas exactement où, mais cette note, elle semble présenter un schéma d'un projet de traduction de la Bible avec les noms potentiels des traducteurs écrits tout juste à côté. Et à côté de Revelation, il y a une erreur ici avec un S, mais c'est l'Apocalypse, eh bien, nous trouvons les noms de Darby et Newton. Et vous connaissez probablement l'histoire du conflit entre Darby et Newton qui est arrivé très rapidement. Mais déjà en 1837, il y avait un projet de traduction biblique, on ne sait pas dans quelle langue, on peut présumer que c'est peut-être l'anglais, mais qui impliquerait Darby et Newton sur le livre de l'Apocalypse, et puis il y a beaucoup d'autres noms là-dedans qui sont assez connus aussi. Donc, avant même de commencer son propre travail de traduction, il était déjà intéressé par le phénomène. Bon, on n'est pas certain à 100% que c'est ce dont il s'agit dans cette note, mais c'est ce qui semble être le cas. Mais c'est vrai que Darby a eu l'occasion d'acquérir beaucoup d'expérience à travers un travail de traduction qu'il a fait pour une autre traduction biblique. Je ne sais pas si vous le saviez. Est-ce que vous connaissez le Nouveau Testament de Lausanne? C'est vrai qu'il y a peu de gens qui connaissent ce Nouveau Testament. Et Darby a travaillé en particulier sur cette édition, la seconde. Il y a eu 4 éditions du Nouveau Testament de Lausanne, la première édition de 1839 et celle-ci de 1849. Et c'est de cette version-là dont il est question dans les lettres que Darby échange avec un dénommé B.R., Benjamin Rossier. Et donc, dans le messager évangélique, nous retrouvons la correspondance entre John Nelson Darby et Benjamin Rossier ici à Vevey, et ils échangent des notes sur cette traduction. Et donc Darby a collaboré d'une manière particulière aux notes de bas de page que nous trouvons dans cette version. Je n'ai malheureusement pas trouvé jusqu'à ce jour cette édition, j'ai la première et la quatrième. Mais il y a des notes effectivement qui expliquent le sens des mots grecs, et donc nous avons suffisamment de preuves documentées, littéraires, que Darby était sur ce projet. Et vous voyez que ça se répand sur cette période de 1845-1846. Mais son propre travail de traduction, à lui, il va débuter officiellement, c'est un peu avant, bien sûr, mais en 1855, et il va s'étaler sur tout le reste de sa vie. On peut dire vraiment qu'avec 1855, en fait, qui est la date de publication de son Nouveau Testament en allemand, Elberfelder Bibel, et puis c'est là que va être publiée pour la première fois une traduction faite par Darby lui-même et ses collaborateurs, et ça va s'échelonner sur cette période donc qui nous amène jusqu'à sa mort en 1882. C'est beaucoup de travail, c'est incroyable. tout le dernier tiers de sa vie a été consacré au travail de traduction. Il a mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dans ce travail-là. Le 15 décembre 1881, il écrit à son ami et collaborateur de très longue date, Pierre Schlumberger, qu'il devait continuer à travailler ses notes pour la traduction française. Il avait 81 ans à ce moment. Vous voyez, c'est impressionnant. Donc, pendant une période de 26 ans, Darby va produire plusieurs Nouveaux Testaments, plusieurs Anciens Testaments, des Bibles complètes dans plusieurs langues. C'est un phénomène, ça. On ne voit pas ça dans toute l'histoire de l'Église avec personne d'autre. Bien sûr, on ne peut pas attribuer à lui seul le travail, mais il a fait l'ensemble du travail de base. Je ne saurais pas comment dire, 80% du travail peut-être, et le reste était avec ses collaborateurs pour donner la forme finale au texte. Mais toutes les traductions étaient faites par Darby dans un système, ce qu'on appellerait interlinéaire. Donc, sous le texte grec, il écrivait une traduction en allemand, en français, en anglais. Peut-être qu'il a même aidé pour d'autres langues, nous le verrons plus tard. Et puis voilà, et ensuite, avec son équipe, il finalisait. Regardez ce que ça donne. C'est impressionnant de voir le travail de Darby s'échelonner comme ça. Donc, nous avons le projet de traduction en anglais, on ne sait pas trop, 1837. Et puis, par la suite, vous voyez, il travaille sur la version de Lausanne, deuxième édition, dans les années 45 à 47, et qui sera publiée en 49. Et par la suite, on peut voir tous les Nouveaux Testaments et les Bibles entières que Darby a publiées. Ça, ce sont les premières pages qu'on trouve dans les versions numérisées, bien sûr, de ces traductions-là. Surtout, pauvre Vevey 1859. Je ne sais pas si vous l'avez, mais si vous l'avez, vous venez de devenir un de mes meilleurs amis. très difficile à trouver et à voir, mais il existe, c'est certain. Mais voilà son travail. Il est immense, c'est incroyable, c'est pas possible. Même des gens peuvent mettre ça en doute et dire, mais c'est pas vrai ça se peut pas qu'il ait fait tout ça. Mais vraiment, c'est le Seigneur qui a travaillé à travers lui. C'est un homme extrêmement dédié à son ministère, très discipliné, qui a renoncé au mariage un mois avant le mariage avec Lady Powerscourt, qui est morte très rapidement après, je pense quelques semaines après, et Darby a toujours pensé qu'il l'avait fait mourir de chagrin. En renonçant au mariage parce que des frères lui avaient dit, « Darby, si tu te maries, tu ne pourras pas donner autant de temps au service de l'assemblée des frères. » Et puis voilà, il a renoncé au mariage et puis il est resté avec cette lourde peine toute sa vie. Mais une discipline extraordinaire, il passait ses journées entières dans son travail de traduction. Vous savez qu'il aurait peut-être même travaillé directement sur une traduction en italien et une autre en hollandais, en néerlandais, c'est possible. Probablement que c'est le cas aussi. Dans le livre, vous allez découvrir des éléments de preuve potentiels. Maintenant, quelle a été la méthodologie pour reconstruire l'histoire, les objectifs et les principes du travail de traduction de Darby? Ça a été très, très difficile. Il a fallu que je lise des milliers de pages réparties dans des centaines de documents. Parce que, en fin de compte, c'était plus facile avec le format électronique parce que je pouvais que taper, par exemple, des mots-clés comme traduction, traducteur, ou juste TRAD avec une étoile pour pouvoir avoir plusieurs formes. Mais quand c'était que dans les formats imprimés, il fallait lire tout, jusqu'à ce que je trouve peut-être une phrase dans un livre de 300 pages qui parle de son travail de traduction. Parce que c'était ça, Darby. Il évoquait ce travail-là. Heureusement que il y a des frères qui, à travers le temps, ils ont tout de même construit un genre d'index pour nous permettre d'avoir accès à ces différents documents où ils parlent de traduction. Et je suis très reconnaissant, entre autres, aux éditeurs du Messager évangélique qui ont fait un index superbe. Alors, il est très utile pour retracer certaines choses et voilà certains sujets ou thématiques. Et donc, le travail de traduction de Darby aussi. Personne n'avait rédigé là-dessus. Moi, je trouvais quelque part que c'était ingrat, ce n'était pas possible qu'on ait des traductions aussi fidèles et puis que personne n'ait jamais rédigé quoi que ce soit. Ben, dans sa grâce, le Seigneur m'a utilisé pour le faire, ce travail. Et puis, franchement, ça a été une bénédiction pour moi Et ça m'a, comme Darby le dit lui-même dans une lettre, ça m'a forcé à être dans les Écritures constamment, et c'est effectivement ce que j'ai vécu. Alors, de quelle manière j'ai fait ce travail? Bien, j'ai premièrement passé à travers les différentes biographies. Il en existe 5 principalement que vous voyez ici. Les 3 plus connues sont celles de Turner en bas, de Marion Field au centre et de Max Verhemchuk. Complètement à droite. Et puis, celle-ci, Darby as I knew him, c'est-à-dire Darby tel que je l'ai connu, c'est William Kelly qui a rédigé cette courte, très, très courte biographie. Et puis, de l'autre côté, là-bas, c'est un frère qui emprunte un pseudonyme pour rédiger cette biographie. Et son nom est trop compliqué, je ne vais pas le lire. De toute façon, c'est certain que je ne vais pas le lire correctement. Mais simplement vous dire qu'elle est en ligne, cette biographie-là. Je n'ai jamais vu la version imprimée, mais elle est quand même intéressante. Alors, en lisant ces 5 biographies, j'ai pu retracer un peu son travail de traduction, mais avec très peu d'informations, très, très peu. Et par la suite, j'ai fait aussi la lecture des lettres de Darby, qui était une source majeure, pour ne pas dire la source la plus importante. En anglais, il existe 3 volumes des lettres qu'il a rédigées en anglais. En français, nous avons le messager évangélique. Et récemment, dans les dernières années, je crois que c'était en 2016, Vevey, ils ont publié les lettres de Darby dans un volume. C'est plus qu'un volume. C'est magnifique. Super. Très beau travail. Et là, je remercie le dépôt d'avoir fait un tel travail. C'était super. Mais à Manchester, j'ai eu l'occasion de passer une semaine là-bas, à raison de 8 à 9 heures par jour, à lire des lettres de Darby. Bon, vous voyez son écriture. Ça prend un décodeur pour lire Darby, hein? C'est pas possible. Je crois que j'écris mal. Vous le verrez d'ailleurs dans la dédicace, j'écris assez mal. Mais là, Darby, non mais ça c'est super, hein? Les lettres sont toutes penchées un peu comme ça. Et puis, là j'avais mal au cou à essayer de lire qu'est-ce qu'il avait écrit. Et finalement, j'ai découvert qu'il y avait souvent des transcriptions qui avaient été faites. Alors, chapeau à ceux qui ont transcrit. Eux, là, ils sont super. Et puis, j'ai pu utiliser ces retranscriptions, mais il y a quelques lettres. Par exemple, cette lettre de William Joseph Lowe à gauche, qu'il écrit à Darby au sujet de questions qu'il a sur la façon de traduire les mots, etc. Et puis, on voit la discussion entre les deux hommes. C'est formidable. Vous savez à quel point William Joseph Lowe était un des plus grands collaborateurs de Darby. Il lui a dit « Toi, tu es mon homme » quand il l'a rencontré à Lausanne. Et puis, à cette époque, Lowe, qui était anglophone, il venait ici en Suisse pour apprendre le français pour aller où? Chez nous, au Québec. Ben, on ne l'a pas eu parce que Darby a mis la main dessus avant. Alors voilà, on a manqué William Joseph Lowe au Québec à cause de Darby, mais je ne lui en veux pas. Parce que William Joseph Lowe est devenu un de ses grands collaborateurs sur la version française. Il l'a beaucoup assisté, aidé, et j'ai eu le privilège de lire des échanges entre les deux. Si vous ne connaissiez pas ça, ça se trouve à Manchester, à l'Université de Manchester, et le frère F.F. Bruce, Frederick Fivey Bruce, il a eu à cœur de démarrer ce qu'il appellerait une immense collection des écrits des frères. Et puis, il a donné sa propre collection personnelle, qui était à cette époque à peu près 7000 volumes, si je ne fais pas erreur. Et aujourd'hui, ils sont rendus à près de 50 000 volumes, qui sont les volumes de l'histoire des frères. Et puis, quand tu fais des recherches dans le milieu des frères et l'histoire des frères, eh bien, c'est là-bas qu'il faut aller, à l'Université de Manchester, au Brethren Archives de cette université. Excellent. Ce lieu d'archives. Et donc, en compulsant comme ça, tous ces documents, ça m'a amené à faire les découvertes qui sont présentées dans ce livre. Il y a eu, évidemment, plusieurs livres d'histoire dont j'ai dû lire. Entre autres, le premier là-bas, le livre de Louis Burnier. C'était lui qui était un peu à la tête, si vous voulez, du comité de la traduction de Lausanne. Et donc, lui et Darby ont été en communication ensemble. Et puis même dans ce livre-là, il va dire que Darby a profité beaucoup de son travail sur le Nouveau Testament de Lausanne pour son propre travail de traduction. J'en ai aucun doute, parce qu'il a pris de l'expérience, de la connaissance au fur et à mesure qu'il avançait. Il y a seulement ici qu'un échantillon d'ouvrages. J'ai dû aussi consulter des ouvrages en italien, en allemand, mais je ne connais pas ces deux langues, alors j'ai dû demander de l'aide et puis Je me rappelle que Marc Chibli, entre autres, il a passé du temps assis à côté de moi à me traduire des ouvrages écrits par des frères allemands et puis qui nous donnaient des informations sur le travail de traduction. Mais à travers ces ouvrages, vous avez quand même une bonne idée. J'ai découvert que Pierre Schlumberger, ça c'était le collaborateur de Darby sur la version française, ben, il avait un fils qui s'appelait Gustave. Et Gustave a rédigé un ouvrage en deux volumes qui s'appelle « Mes souvenirs ». Il est là, « Mes souvenirs ». Et c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit « Mon papa, je le voyais constamment avec son Nouveau Testament à la main. » Et puis, il l'appelle le Nouveau Testament « Pauvre Vais ». Et puis, il disait « C'était le Nouveau Testament de mon papa ». Et puis, il l'avait fait avec l'aide de John Newton Darby. Bon, sa mémoire lui a fait défaut, de toute évidence. Mais tout de même, il nous donne des informations importantes. Derrière le Nouveau Testament en français, Schlumberger a joué un rôle fondamental, surtout dans la manière de fixer le texte. Si jamais vous avez, si vous avez la connaissance de l'anglais, du français et de l'allemand, et qu'un jour vous avez la possibilité de comparer les trois travaux de traduction, vous allez remarquer que le niveau de l'allemand et de l'anglais est supérieur à celui du français au niveau de la littéralité. Darby a été beaucoup plus précis, beaucoup plus littéral en allemand et en anglais, parce qu'en français, il a dû laisser le travail de l'élégance de la construction finale du texte entre les mains de Pierre Schlumberger et aussi de William Joseph Lowe et quelques autres qui se sont impliqués aussi, comme Charles-François Recordon, voilà, qui ont travaillé ensemble à construire un texte français. Et toutes ces ressources ont été utiles quelque part, mais il fallait lire et relire. Le petit livre Bible Notes est le deuxième en bas. À cette époque, il n'était pas encore publié. Ça a été publié par Gospel Trust de Londres, si je ne fais pas erreur. Et puis là-bas, j'étais en 2013 en train de présenter dans le sud de Londres une conférence sur le travail de Darby. Et puis en présentant ce travail, il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin, qui m'a tendu la main, mais c'était un géant cet homme, je le regardais. Et puis sa main, je cherchais la mienne dans la sienne. Et puis il me dit comme ça, « We have some documents that you will not find anywhere else. » OK? Tu sais, j'ai des documents que vous ne trouverez jamais ailleurs. C'est nous qui les avons. Oui, OK? Et puis, on va te les envoyer chez vous. Et trois semaines plus tard, je recevais d'Angleterre des documents comme Bible Notes, dans lesquels il y a des informations en quantité incroyable sur le travail de traduction de Darby. Ils ont aussi publié un livre qui met les dates à tout ce que Darby a écrit, même ses lettres. Impressionnant, tout est là. Alors, le Seigneur a permis que je rencontre de telles personnes qui m'ont beaucoup aidé. Évidemment, j'ai utilisé les livres de Darby lui-même, les Collected Writings. C'est la série de tous les écrits de Darby que nous avons maintenant en français. C'est disponible derrière, en passant, publié par Vevey. Excellent, ils ont fait une collection des écrits de Darby en français. J'ai travaillé dans le texte en anglais, et ça, ce que vous voyez là, c'est le Nouveau Testament personnel de Darby, son Nouveau Testament en grec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un Nouveau Testament de Griesbach de 1818, il l'a interfolié avec des pages plus grandes, et il a pris des notes dans la marge. Et c'est ainsi que Darby travaillait le texte et travaillait les variantes textuelles de ce texte de Griesbach. Je crois qu'il faisait beaucoup confiance à ce texte-là, plus qu'aux autres textes grecs qui existaient à l'époque, et c'est de cette façon qu'il a reconstruit son propre Nouveau Testament grec. Et j'ai eu le privilège de l'avoir pendant quelques jours dans les mains là-bas à Manchester. Aussi, bien sûr, dans les écrits de Darby, il y a les préfaces, plusieurs préfaces. Et vous savez ce qui m'a étonné? C'est que souvent, je rencontrais des frères qui disaient qu'ils passionné de la Bible Darby depuis des années, j'avais grandi avec cette Bible et je leur disais, « Et tu as déjà lu la préface? » Non. La préface. Qui lit la préface d'une Bible? C'est super important. C'est là qu'on trouve des informations remarquables. Et dans les préfaces de Darby, dans plusieurs langues, vous avez même, le hollandais, le suédois, j'ai eu de l'aide aussi pour ces langues, mais là-bas, on peut trouver des informations extraordinaires qui nous expliquait son travail Donc, c'est pour cela que je l'ai mis ici, parce que franchement, c'était un outil extraordinaire. Et ce catalogue auquel je faisais allusion, on a mis en vente la librairie de Darby. Ça devait être assez impressionnant de pouvoir être à cette vente et de voir tous ces ouvrages qu'il avait là-bas. Darby avait des éditions originales de plusieurs écrits importants de son époque et qui l'a aidé dans son travail de rédaction. En cours de route, donc, dans mes études, ça m'a permis d'établir qui étaient les collaborateurs connus et ceux potentiels, si on peut dire, de son travail de traduction. En allemand, on en a plusieurs, vous les voyez ici. Donc, des noms qui sont assez bien connus aussi. Certains étaient là pour travailler dans l'hébreu, d'autres étaient là pour travailler dans le grec, mais Darby ne travaillait pas tout seul. En fin de compte, en tout et partout, il y a probablement une trentaine de personnes qui gravitaient dans le travail de traduction de Darby. Si on inclut, par exemple, Recordon à Vevey, si on inclut aussi les ministres de Lausanne qui ont fait la traduction de Lausanne, et en comparant tous les écrits qu'on a, on voit qu'ils travaillaient avec beaucoup de personnes différentes. On a aussi les collaborateurs pour la version française dite pour Vevey. Pierre Schlumberger est son collaborateur par excellence, William Joseph Lowe, et Bevir aussi, qui a été très utile en italien également, mais qui a travaillé avec Darby sur la version française. Mais là, j'aurais pu étendre à quelques autres noms aussi, mais on n'a pas assez ou suffisamment de preuves documentaires jusqu'à maintenant. Puis vous savez ce qui m'étonne? C'est que sa langue, à lui, c'était l'anglais. C'était ni l'allemand ni le français. Et en anglais, on ne connaît aucun collaborateur de Darby officiellement. Il y a des théories, j'en ai entendu plusieurs. Il y a un article d'un très vieux dictionnaire, The Encyclopedia of Religious Knowledge, qui existe, et puis qui mentionne un certain, je ne me rappelle pas le nom, Whitfield ou quelque chose comme ça, qui aurait travaillé sur la traduction anglaise. Mais ce n'est pas net, ce n'est pas clair, on ne sait pas vraiment en réalité. Mais il y a certainement eu de l'aide aussi, quoique là, c'était sa langue à lui. Mais je n'ai pas trouvé jusqu'à maintenant de collaborateur de façon précise. Et puis, là aussi, ce que j'ai découvert, c'est la raison de l'insatisfaction du travail de Darby. Et puis, j'aime cette photo parce qu'elle démontre quelqu'un qui est assez insatisfait, selon moi. C'est ma photo préférée de Darby. Il y en existe cinq, vous les avez vues à travers le montage. Il en reste une encore à voir. Mais j'aime cette photo parce qu'elle montre le sérieux. Pour moi, ce n'est pas un sévère que je vois, c'est un sérieux. Ce n'est pas exactement la même chose. Et puis, je vois au-delà dans ce regard. Mais c'est vrai que Darby était très insatisfait avec les traductions qui existaient à son époque. Et voilà pourquoi il était insatisfait. Je vous donne les raisons qui sont mentionnées à travers tous ses ouvrages, ses lettres, etc. L'absence d'une version fidèle dans la langue du peuple. Les principes de traduction utilisés par les traducteurs, et entre autres en anglais, il était assez critique à l'égard des traducteurs de la King James. Quoique, vous devez savoir qu'il n'a jamais découragé ou déconseillé d'utiliser la King James. En réalité, on dit que Darby, quand il prêchait en anglais, il ne prêchait pas avec sa New Translation, mais avec la King James. Parce qu'il reconnaissait l'héritage littéraire formidable de la King James. Mais les principes de traduction, là, il n'était pas tellement en accord parce qu'il trouvait qu'ils avaient dilué le texte dans une quantité incroyable de synonymes. Et je pense que Darby, c'était bien qu'il ne connaisse pas trop Second et la façon dont Second a traduit. Bon, je suis habitué avec la Second, je la connais bien, mais j'ai été surpris récemment encore de réaliser que pour le verbe « beau » en hébreu, qui signifie de façon basique, là, littéralement « entrer », 140 verbes différents dans la traduction Second pour un seul verbe en hébreu. Ce n'est pas possible. Alors, voilà, dans Darby, il y aura peut-être 6, parce qu'il y a des champs sémantiques différents, mais quand même, 140, ce n'est pas possible. Et donc, Darby, il était un peu insatisfait, très d'ailleurs, avec ce principe de traduction qui consiste à utiliser autant de synonymes possibles pour enrichir la langue. C'est vrai, par contre, que ça donne une belle langue. Mais voilà, il était aussi insatisfait parce que les textes utilisés pour les traductions de l'époque, il les jugeait inférieurs. Il parlait du texte reçu en particulier. Le texte reçu est un texte grec, vous savez, qui a été enfin reconstruit à partir de textes très, très faibles en appui textuel. Et en plus, Quand Erasme a fait la première édition, il n'avait même pas de texte grec pour terminer l'Apocalypse. Alors, il a retraduit en grec le texte latin de Jérôme. C'est loin d'être le texte original, ça. Alors, Darby se disait, mais non, on ne peut pas se fier sur un tel texte. Et vous savez, Darby, il aimait regarder pas seulement l'âge des manuscrits, pas seulement le nombre, mais aussi il regardait l'ensemble des manuscrits et aussi le style de l'auteur dans la Bible. Ça, c'est assez remarquable. Il y avait une sensibilité à Paul en tant qu'auteur, en tant que rédacteur, à Jean, à Pierre, etc. Il passait du temps à étudier leur vocabulaire, leur style, et ainsi, il pouvait prendre des décisions, non pas seulement sur les témoignages qu'on avait dans les différents manuscrits grecs. Ce travail-là, il est extraordinaire, déjà au départ. Et puis aussi, le manque de précision dans les traductions, c'est quelque chose qui le travaillait beaucoup, et voilà pourquoi Darby avait à cœur de donner une traduction qui soit plus fidèle dans la langue du peuple, avec des principes de traduction fidèles et plus constants, plus cohérents, et aussi en utilisant l'ensemble des témoins, c'est-à-dire les manuscrits grecs de différentes traditions, les versions anciennes, les citations des pères de l'Église, le style de chaque auteur, etc., et aussi de donner un texte, comme lui-même le dit parfois dans ses préfaces, de donner le texte comme dans un miroir, comme si le miroir rendait le texte grec en français. Et voilà, bien sûr, c'est impossible à faire. De façon parfaite à 100%, c'est impossible. Mais Darby s'est rapproché plus que tous les autres de ce but-là, de donner une traduction qui soit si fidèle de cette manière-là. Bon, il y a beaucoup d'autres choses à savoir sur l'histoire, les objectifs et les principes, mais je veux que vous achetiez le livre. Non, mais si je dis tout, ben vous allez dire, ben, merci pour la conférence, vous partez. Alors, vous achetez le livre, vous savez la suite. Le temps nous manquerait pour aller plus loin, j'aimerais vous vraiment beaucoup en parler, mais j'aimerais aller dans une direction pour les peut-être 10 dernières minutes qui me restent. On pourrait penser qu'un homme comme Darby, qui a passé autant de temps dans le travail de traduction de la Bible, qu'il l'a fait avec beaucoup de joie et de tout son cœur, mais en fouillant ses lettres, en compulsant ses centaines et ses milliers de documents, j'ai découvert que Darby avait beaucoup plus à cœur deux autres aspects du service du Seigneur, les visites pastorales et l'évangélisation. C'est là que Darby avait son cœur. Il voulait et souhaitait passer le plus de temps possible à visiter des frères et sœurs et à évangéliser les perdus. Darby était un pasteur et un évangéliste dans l'âme. Et ces deux aspects du service qui étaient tellement importants pour lui que son travail de traduction était un véritable fardeau. C'était un poids immense sur ses épaules. C'était très lourd à porter pour Darby. Dans une lettre écrite à Elbefeld, en Allemagne, en 1857, donc on est juste après la publication du premier Nouveau Testament grec et 2 ans avant la publication de son premier Nouveau Testament en français. Eh bien, Darby, lui-même, a dit que le travail de traduction, pour lui, c'était comme un temps de pénitence. Oui, c'est ce qu'il dit à Pierre Schlumberger. Voici ce qu'il dit. « Je me hâte de quitter Elbefeld, non qu'il n'y ait pas à faire, mais pour être ailleurs. » C'est spécial. « Je veux m'en aller d'ici. » Ça fait quoi, là? Ça fait 3 ans qu'il est là-bas à traduire en allemand. « J'en ai marre. » C'est exactement ce qu'il nous dit. « Il faut que je parte. » Puis je tiens mes traductions, voilà ce qu'il pense, pour une obligation et un peu pour un temps de pénitence, comme m'empêchant d'être à l'œuvre. C'est spécial, hein? J'aurais jamais pensé ça si je n'avais pas passé autant de temps à lire ces lettres attentivement pour réaliser, mais franchement, c'était lourd pour lui ce travail de traduction. L'œuvre dont il parle, être à l'œuvre, c'est visiter, évangéliser. C'est ça qu'il voulait faire constamment. Oh, son travail, il était très, très sérieux, hein? Et Darby le savait très bien. Puis, malgré son immense connaissance, malgré sa grande érudition, il était rarement satisfait de son travail, très, très rarement. Mais parce qu'il aimait les frères et surtout les pauvres, il avait vraiment un cœur pour les pauvres, eh bien, il a persévéré dans son travail de traduction. Il a écrit une lettre à son ami Wigram depuis Elberfeld en 1855. Il lui a écrit ceci, pardon si c'est un petit peu petit, mais ça dit, « Même si le travail de traduction a été un grand exercice pour moi, accompli comme un service nécessaire, je peux le remettre entre les mains de Dieu. Je ne regarde pas ce travail comme étant satisfait et suffisamment soigné, mais je crois qu'il présente la meilleure et la plus sincère traduction que nous puissions avoir. Et les frères pauvres la trouvent claire et facile à comprendre, plus que celle qu'ils avaient eu auparavant. » Lorsque le travail de traduction était terminé, eh bien, le travail n'était pas fini. Il fallait maintenant réviser tout ce texte. Vous savez, traduire, c'est une chose. Mais ensuite, après, il faut tout revoir. Est-ce qu'on a bien traduit? Est-ce qu'on a passé par-dessus quelque chose? Et là, Darby, il a clairement exprimé ses sentiments concernant cette partie du travail. Il n'aimait pas ça. Et pas du tout. Parce qu'il fallait mettre tout le temps là-dedans. Et voilà, ça l'empêchait d'exercer ses deux autres ministères qu'il avait tant à cœur. Mais pourquoi a-t-il persévéré? Parce qu'il disait, c'est par amour pour eux que je le fais. Il a réalisé que même s'il n'était pas dans le service actif, dans les maisons pour encourager ou dans les rues pour évangéliser, il savait qu'en faisant ce travail de traduction, il était en train de donner aux frères, par amour pour eux, une traduction fidèle. Il a appris à se soumettre au Seigneur à travers ce travail. Alors qu'il commençait la révision du texte en français, il dit ceci, « Je m'étonne de ma tranquillité à l'égard de cette traduction. J'espère que c'est un signe que Dieu est avec moi. » C'est beau, hein, de voir ça. Nous l'avons faite, je le crois, avec beaucoup de soin. C'était un devoir évident. Mais je n'ai jamais eu un moment de souci ni d'inquiétude. Je ressentais un peu au commencement mon éloignement du travail actif du cœur au milieu des frères. Voyez encore, son travail de traduction l'éloigne. Mais Dieu m'a soulagé de ce poids en le lui présentant après les premiers jours. Ça me fait penser, je vois vraiment dans mon esprit Darby en train de travailler à son bureau à traduire, mais son cœur est ailleurs, sa tête n'est pas là. Et puis là, ça fait 2-3 jours que c'est comme ça, puis là, il se dit, j'y arriverai pas. Là, il faut que mon cœur ne soit pas tout partout, mais dans mon travail, et je vais le faire par amour pour les frères. Et il a placé cela devant le Seigneur, et le Seigneur lui a donné sa paix. Et voilà pourquoi il dit, « J'ai fait ma tâche journalière sans autre sentiment que le désir de bien le faire. » On voit bien comment Darby avait beaucoup de poids sur ses épaules devant ce travail. Mais il s'y est consacré très fortement. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas qu'une seule réunion à l'église ou à l'assemblée une fois par semaine. C'était souvent plusieurs fois seulement le dimanche, et encore, il y avait des réunions en semaine. Il y avait des réunions comme ça, alors qu'aujourd'hui, c'est souvent qu'une seule réunion. Darby, il aimait être dans les réunions avec les frères et sœurs. Et voici ce qu'il écrit à ce sujet. « Nous avions des réunions le jour du Seigneur et deux fois dans la semaine. Quoi qu'il en soit, c'est déjà beaucoup par rapport à aujourd'hui, hein? Quoi qu'il en soit, j'étais mécontent de ne pas avoir plus de temps à passer avec les âmes et de ne rien faire de façon directe dans l'œuvre du Seigneur. » Encore une fois, ça le travaille jusqu'à la fin. Car, regardez l'horaire, de 9h le matin jusqu'à 11h le soir, je travaille à la traduction de sorte qu'il m'est impossible de visiter les frères. Oui, on s'en doute. Évidemment, bien sûr. Mais c'est un poids pour lui, parce qu'il aurait tellement aimé être là. Mais plus que le temps avançait, plus qu'il a avancé dans sa vie, plus il a vieilli, plus il a continué à faire ce travail de traduction, plus c'est devenu une bénédiction pour lui. Au départ, c'est un fardeau. C'est un obstacle, une pénitence. Mais au fur et à mesure qu'il progressait et qu'il réalisait l'importance de sa tâche, de son travail, Darby a réalisé à quel point c'était un travail important. Et maintenant, il ressentait qu'il pouvait être dans la présence du Seigneur. Voici ce qu'il dit. Beaucoup plus tard, c'était en 1879, donc il a 79 ans, 3 ans avant sa mort. Maintenant, les jours passent, l'un après l'autre, sans aucune différence. Il fait toujours le même boulot, étant toujours occupé à la révision de notre traduction française. J'aurais envie de rajouter et allemande, et anglaise, et toutes les autres. Hein? Toutefois, la parole de Dieu est constamment renouvelée. Plus il passait du temps dans l'Écriture, plus il réalisait à quel point il se rapprochait de Dieu. Et dans une dernière citation, Darby nous dit ceci, « Je vous envoie encore une feuille de la traduction, c'était un de ses collaborateurs. Qu'est-ce qu'il dit? Elle m'éclaire toujours plus moi-même. Qui est le premier bénéficiaire de la traduction? C'est le traducteur. Il apprenait toujours davantage, il trouve davantage les trésors de la parole. On peut certainement dire que c'était un fardeau au départ, mais c'est devenu une grande bénédiction pour Darby et c'en est toute une pour nous aujourd'hui. D'avoir le fruit de son travail, d'avoir accès à une Bible si fidèle, si près des langues originales depuis maintenant plus de 150 ans. On a cette traduction fidèle dans notre langue et puis voilà, nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Cette étude, évidemment, ça m'a amené à chercher, à découvrir tous ces textes originaux de Darby, de ses traductions, ses premières traductions. Pour tout le livre de l'Apocalypse, par exemple, j'ai parti du texte de 1859 et j'ai comparé avec toutes les révisions qu'il a faites pour voir l'évolution, pour voir le changement et quel changement il a lui-même apporté. Quatre fois, il a révisé, en fait trois fois, il a révisé sa traduction française en 72, 75, 78. Et puis, on voit le travail changer un tout petit peu. Darby donne un peu plus de précision, un peu plus d'élégance. Et puis ce texte a été fixé, nous le savons, pour nous en français, en 1885, trois ans après la mort de Darby. Voilà. C'est ce que je voulais vous présenter, l'arrière-plan de ce travail, à quel point un travail qui a pu lui paraître un fardeau immense est devenu une grande bénédiction, non seulement pour lui, mais pour nous encore aujourd'hui. J'ai le privilège d'avoir dans mon bureau... Ça, c'est des petites tablettes que je me suis fait dans mon bureau. La première tablette en haut, ce sont les Nouveaux Testaments originaux de la deuxième, troisième et quatrième édition de son Nouveau Testament français, la première édition de son Nouveau Testament en anglais, la deuxième de son Nouveau Testament en allemand, et puis voilà, il manque toujours celui de 1859. Je ne désespère pas un jour mettre la main dessus. Mais je suis tellement reconnaissant au Seigneur de voir ce progrès, de ce travail et de savoir que c'est toujours publié aujourd'hui. J'aimerais terminer par un mot de prière de reconnaissance, si vous me le permettez bien. Courbons nos têtes. Seigneur, nous te bénissons pour ton travail magnifique que tu as fait à travers un simple homme, un petit homme qui s'est simplement consacré à toi. Et voilà, c'est toi, Seigneur, qui fais de grandes choses. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le frère Darby, tout ce que tu as fait à travers lui, et en particulier pour ses traductions qui demeurent encore aujourd'hui dans plusieurs langues, dans plusieurs pays du monde, une référence pour l'étude du texte biblique. Seigneur, étends cette œuvre, fais connaître cette traduction à travers ce livre, que les gens puissent mieux connaître le travail de Darby sur la traduction et se procurer cette version remarquable. Que tu puisses, Seigneur, vraiment étendre cette œuvre au-delà même de ce que Darby aurait pu espérer, et que tu puisses vraiment, Seigneur, en toute humilité, bénir la publication, la diffusion de cet ouvrage, et que toute la gloire t'en revienne, parce que c'est toi le seul grand Dieu qui fait toutes ces choses. Nous sommes entre tes mains des instruments, et aussi nous contemplons tes œuvres, Seigneur, tout ce que tu fais. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen.
Un grand merci à Gilles pour sa conférence. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont des questions à poser et nous souhaitions ouvrir un temps de questions pour que vous puissiez en toute liberté les poser à Gilles. Il y a Jean-Philippe qui se promènera dans la salle avec un micro pour que la question soit bien entendue par tout le monde. Donc j'ouvre la période de questions. Il faut toujours une première personne, c'est le plus difficile. Qui se lance ?
À ma connaissance, dans tout ce que j'ai pu voir, il n'y a jamais eu de collaboration entre Darby et Westcott & Hort. Vous savez, ce sont deux Britanniques qui ont principalement reconstruit un Nouveau Testament grec, surtout fondé sur le Codex Sinaiticus, et je doute en fait qu'ils aient eu une collaboration ensemble. Comme vous le savez, ça a été publié une année seulement ou quelques mois avant que Darby meure. Et je n'ai vu aucune preuve d'un travail de collaboration. Et je dis cela parce que certains ouvrages américains avancent que Darby aurait utilisé Westcott & Hort. Mais c'est presque impossible, dans un sens, ou très peu probable.
Tu es en train de faire des commentaires sur des des notes sur les traductions, sur les mots, et tu es en train de faire tout un travail à ce sujet. Qu'est-ce qui t'amène et pourquoi, alors que tu nous as donné en fait toute la valeur de la traduction et de son exactitude?
Oui, c'est un projet qui est en cours, sur lequel je travaille, qui est en fait, je souhaite créer un nouveau testament d'Arbi d'études avec des annotations qui expliquent tous les mots grecs majeurs dans leur contexte. Alors, ce ne sont pas des commentaires, ce ne sont pas des notes de critique textuelle fondées sur, par exemple, les manuscrits, ce sont simplement des explications des différents sens des mots en tenant compte de leur contexte. Donc, c'est un peu le projet sur lequel je travaille, basé sur le texte de Darby, car je crois que c'est le texte le plus fidèle qu'on a en français. Voilà. Et si Dieu le veut, dans un prochain temps, peut-être même à cette période-ci, l'année prochaine, nous présenterons peut-être une conférence à ce sujet. On a déjà un peu discuté. C'est un projet qui avance quand même très bien. Beaucoup d'annotations déjà, près de 800 mots qui sont annotés, expliqués dans leur propre contexte. Je donne juste un exemple. Il y a le mot « patience » dans la version française de la Darby. Parfois, ce n'est pas le même mot grec qui est derrière. Parfois, ça peut être le mot « hypomone » et parfois, ça peut être « macrothumia ». « Hypomone » est un mot qui parle de patience envers les événements et les circonstances, tandis que « macrothumia » est un mot grec qui explique la patience envers les gens, les personnes. Et donc, le but, c'est d'indiquer dans une note de bas de page, ici, nous avons le mot grec « hypomone » qui parle principalement de patience envers les événements et les circonstances. C'est un peu ce qu'on est en train de faire pour que les gens aient accès au texte grec qu'ils ne connaissent pas, et de donner un outil d'étude principalement pour les frères d'Afrique. Ben, il sera bienvenu partout ailleurs aussi.
Est-ce que tu entreprendras aussi ce même genre d'étude des mots pour l'Ancien Testament? C'est hébreu, évidemment, c'est différent.
Il faut dire que en hébreu, l'importance du sens sémantique, si je pourrais dire, il est moins dominant que dans le grec. En hébreu, ce sont plus des constructions complètes qui sont importantes. Donc, oui, il pourrait y avoir, par exemple, de souligner le sens de certains mots en hébreu qui pourraient apporter de la lumière, mais en réalité, il faut regarder beaucoup plus large en hébreu pour comprendre la portée et l'importance du texte, en particulier dans la poésie. Et il y a beaucoup de passages poétiques. D'ailleurs, Darby a souvent dit que sa plus grande difficulté en traduction de l'hébreu a été le livre de Job. Très difficile à traduire. Alors, voilà, c'est plus de regarder plus large. Je ne sais pas si un jour j'aurai l'occasion de faire ce travail, mais je considère qu'il est moins important que dans le Nouveau Testament grec. Voilà.
Que pensez-vous de la nouvelle traduction qui a été éditée de BPC du Nouveau Testament 2006, sachant que la nouvelle traduction de Darby est en cours de se faire, savoir si ça ne va pas trop diluer la traduction de Darby, je veux dire la simplifier tellement au point qu'elle perd un peu le sens initial que Darby avait au départ.
Ma première réaction, la première fois que j'ai lu le Nouveau Testament Bonne Semence, qui au départ était, je crois, plus directement identifié à Darby qu'il l'est aujourd'hui, ma première réaction a été de dire « c'est pas un Darby, ça! » Mais j'apprécie beaucoup sa lecture. Je la trouve belle. C'est élégant, c'est bien, ça se lit bien, c'est très intéressant. J'aime beaucoup le Nouveau Testament Bonne Semence. J'espère qu'on aura aussi l'Ancien Testament bientôt. Mais il faut quand même voir dans ce projet un projet parallèle. C'est pas qu'on veut refaire la Darby. Le texte de Darby de 1885, il est fixé et on le connaît bien. Et il va toujours rester. Je suis persuadé qu'on va toujours continuer à publier, imprimer, publier ce texte. Et il y a aussi des frères Harold qui ont à cœur de publier celui de 1916 par Henri Rossier. et puis qui travaille à le publier, etc. Ben, moi, je suis très reconnaissant pour tous ces efforts de conserver les textes historiques de Darby. Mais en même temps, cet effort de rendre le texte peut-être un peu plus facile à lire, je dirais, pour ceux qui ne sont pas des initiés au texte de Darby, bien oui, c'est un bel effort à mon sens. Et puis, on peut le garder, gardons-le comme un projet parallèle. On a parti du texte de Darby, on est resté fidèle à l'essentiel, mais on a corrigé certaines structures grammaticales et syntactiques dans le but de donner un texte qui soit plus fluide pour les non-initiés. Personnellement, je trouve que c'est un excellent projet si ça reste comme ça. Donc, il n'y a pas de souci qu'on remplace le texte de Darby avec « Bonne semence ». Projet parallèle. Super.
Vous dites que le texte de 1885 est fixé. Est-ce que des découvertes plus récentes, comme par exemple le Qumran et d'autres qui ont eu lieu, apporteraient beaucoup de changements? Probablement pas, mais quel est votre avis?
Là, je dois dire que je suis très reconnaissant à Pierre-Henri Chevalet. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais ce frère-là, il m'a aidé plus qu'il sait. En publiant ce Nouveau Testament grec, il a reconstruit le texte grec derrière le texte de Darby. Il a fait un travail extraordinaire, hallucinant. Il faut que je lui serre la main pour lui dire en personne merci, un beau jour. Et vous savez, il a lui-même avancé l'idée que, au départ de son travail, lui-même voulait relever ce défi. Est-ce que les nouvelles découvertes de manuscrits changeraient le texte de Darby? Est-ce que Darby ferait une révision de son texte à la lumière des nouveaux textes? Et la réponse, c'est non. Et puis, j'ai pu aussi le démontrer à travers l'un des livres les plus compliqués du Nouveau Testament du point de vue de l'appui textuel, c'est-à-dire l'Apocalypse. J'ai passé tout l'Apocalypse et regardé tous les manuscrits qui étaient à notre disposition et ceux que Darby avait à son époque, et c'est exactement la même chose, il n'y aurait aucune modification. Darby avait accès à des manuscrits d'une excellente qualité. Et puis, il y avait un jugement extraordinaire sur les variantes textuelles. Voilà pourquoi, en réalité, moi je croyais ça au départ, je me disais, il y a eu tellement de découvertes de manuscrits que Darby corrigerait son texte, mais pas du tout. Il n'y a rien qui changerait, en fin de compte. Tout est déjà bien solidement fixé. Oui.
J'ai du mal à comprendre pourquoi Darby a voulu refaire la Bible, alors que la King James existait depuis 1611.
Darby a bien expliqué les raisons qui l'ont motivé à produire une traduction en anglais autre que la King James. Et vous savez ce que Darby a toujours dit? Pour le culte public, pour le culte privé, pour évangéliser, utilisez la King James. Ça, il a dit ça, Darby, puis il l'a maintenu jusqu'à la fin de ses jours. Mais Darby voulait donner un outil d'étude biblique qui permette plus de cohérence dans la traduction. Et les traducteurs de la King James, eux-mêmes, dans la préface originale, ils ont écrit qu'ils avaient cherché à traduire par autant de mots possibles en anglais un même mot grec ou un même mot hébreu pour enrichir le langage. Donc, la King James est un formidable héritage littéraire puisqu'il a pratiquement fixé la langue anglaise. Mais c'est vrai en même temps qu'en donnant autant d'élégance, on risque de s'éloigner de la cohérence et de la proximité du sens des textes. Mais ça, Darby, c'est ce qu'il explique dans ses préfaces, c'est sa raison à lui. Mais on peut ne pas être d'accord avec lui, bien sûr, on a le droit à notre opinion sur ce sujet-là. Mais je constate tout de même qu'il a bien justifié, il a donné des appuis à ses dires, à ce qu'il avance. Et voilà, c'est autant dans ses préfaces, dans les autres langues, il a exprimé un peu pourquoi aussi. De la même manière, il s'éloignait de Osterwald et Martin, par exemple, qui sont des révisions, ni plus ni moins, de la Olivetan. C'est tous la même Bible. Et puis, voilà, il s'est éloigné parce que la base textuelle était un texte, pour ce qui est du Nouveau Testament en particulier, qui jouissait de moins d'appui à travers toute l'histoire des manuscrits. N'oubliez pas que Darby avait une très haute estime de la King James. Mais voilà, c'est une traduction, c'est l'ouvrage d'un homme ou d'un comité. Et les traducteurs ne sont pas inspirés. Seulement les auteurs des textes originaux sont inspirés. Tous les autres, ils ont fait le travail du mieux qu'ils pouvaient avec leur bagage, leur connaissance, leur éducation, leur influence. Voilà.
Merci Gilles. Avant de laisser la parole à Jacques pour conclure, j'aimerais vous signaler que cette conférence ainsi que Les slides seront disponibles d'ici 2 semaines sur le site www.assembleechretienne-balegue.ch.
Alors je ne serai pas long. Un très grand merci à Gilles pour la présentation passionnée que nous avons pu entendre jusqu'à présent, avec bien des choses que je pense la plupart d'entre nous ne connaissaient pas forcément. Et puis dans une époque où il y a beaucoup de tolérance et de remise en question, on n'a plus besoin que jamais d'avoir des valeurs sûres. Et puis si bien des peuples n'ont pas toute la Bible dans leurs mains, eh bien nous avons le privilège non seulement d'avoir plusieurs traductions, mais d'en avoir une très fidèle. Alors ne la négligeons pas, et puis qu'on puisse, un des derniers mots qui a été porté là dans un des derniers dias, afin non pas d'honorer un traducteur, mais pour découvrir toujours davantage les trésors de la parole de Dieu, et puis qu'on puisse ainsi donner gloire au Créateur et à son Fils Jésus-Christ. On va terminer maintenant encore par une prière.
Voilà, avant de prier, je pensais bon aussi de lire dans la Darby une bénédiction que j'ai lue ces derniers jours. Vous bénirez ainsi les fils d'Israël, leur disant, alors c'est les fils d'Israël, mais nous, l'Église, bien après, on peut aussi prendre pour nous-mêmes vraiment cette bénédiction, et chacun d'entre vous dans cette salle, du plus jeune au plus âgé. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Je trouve que c'est beau cette bénédiction et Dieu nous l'accorde. On a connu vraiment ce Dieu puissant. Et puis peut-être aussi c'est un défi. Je ne m'attendais pas à celui-là ce soir, mais Gilles nous a rappelé aussi qu'il y a eu le ministère de l'enseignement, mais il y a d'autres ministères précieux et indispensables dans l'Église qui ont été mentionnés. Prions. Eh bien, Dieu et Père, merci pour ce qu'on a pu entendre. Merci aussi pour toute l'énergie que tu as donnée à Gilles pour faire ses recherches sur plusieurs années. Merci Dieu et Père parce que, c'est vrai, nous disposons de la Bible dans notre langue. Dieu et Père, nous voulons te prier pour aussi, en particulier les traducteurs Wycliffe et d'autres missions qui sont là en train de traduire pour que d'autres personnes puissent l'avoir dans leur langue. Tu vois encore le travail qui est important. Il y a des gens qui continuent à faire ce que Darby a fait aussi à l'époque. Et que tu bénisses cette œuvre, que tu bénisses ces ouvriers et ces serviteurs et ces servantes qui traduisent. Et Dieu et Père, merci parce que tu nous rappelles aussi ce soir qu'on a reçu un don et que nous puissions aussi l'utiliser avec diligence et ardeur, tel que John Nelson Darby l'a fait, que nous puissions vraiment nous concentrer sur le service que tu as donné. Et en particulier, nous reconnaissons aussi dans les assemblées les visites, le travail pastoral qui est des fois peut-être insuffisant, l'évangélisation aussi. Eh bien, Dieu et Père, que tu nous donnes du zèle, que tu nous renouvelles, que tu nous bénisses les uns les autres. Et que tu nous raccompagnes sur la route, et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.